Mémoire vive,
présentée par Ève Cheftel,
préparée par Rachel Rimer, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah avec RCJ. Un jeune juif américain, issu de la grande lignée des Luzzatto, revient sur les traces de ses ancêtres, établis à Venise, et remonte le fil de l'histoire, guidé par ses deux jeunes cousins et sa tante. Le documentaire réalisé par Emanuela Giordano tient de la promenade érudite et de la flânerie contemplative dans le quartier juif d'aujourd'hui et le ghetto du passé, dont nous commémorons cette année le 500e anniversaire de la création. Bonjour Ilan Girard, vous êtes le producteur de ce film, Le ghetto de Venise, qui sera diffusé le 25 mars prochain sur la chaîne Toute l'Histoire à 20h45, et qui sera également projeté le 15 avril au Musée d'art et d'histoire du judaïsme. Vous avez déjà produit notamment un film de fiction, à Lebanon. Et nous sommes aussi en ligne avec Riccardo Calimani, auteur d'une histoire du ghetto de Venise qui a fait date, publiée chez Texto et qui est préfacée dans la version donc française par Elie Wiesel.
Bonjour à vous.
Bonjour hein, Riccardo. Je voudrais savoir quel était, Ilan Girard, ma question s'adresse à vous, quel était le point de départ de ce film en fait? Quelle était l'intention de la réalisatrice?
Bonjour Ève, je suis tout d'abord, je dois préciser, l'un des coproducteurs de ce film. Le film a été initié par un producteur italien qui s'appelle Roberto Levi, qui est un grand producteur, qui a des origines familiales dans la ville de Venise et qui est l'un des descendants lointains des Luzzatto. Quand Roberto Levi m'a parlé de ce très beau projet, j'ai tout de suite pensé que ça pouvait intéresser également un public français, un public international. Et surtout, l'angle de ce documentaire était tout à fait nouveau. C'est-à-dire que la réalisatrice, Emanuela Giordano, voulait combiner des éléments d'interview, des éléments autobiographiques, ainsi que des scénettes théâtrales et des éléments de films d'animation. Il faut savoir qu'Emanuela Giordano est une grande metteur en scène de théâtre en Italie et que c'est là son premier métier et qu'avec ce film, elle voulait rendre hommage à une communauté qu'elle connaît bien.
D'accord. Dont elle est issue elle-même ou pas
forcément? Non, c'est une romaine. Je ne suis même pas sûr qu'elle soit juive.
D'accord.
Mais elle a toujours eu un grand intérêt pour la Shoah en Italie, qui est mal connue, le destin de la communauté juive. Et la réception du film en Italie montre l'intérêt que les Italiens ont pour l'histoire des Juifs italiens.
D'accord. Et est-ce que cet anniversaire de la création du ghetto est aussi un événement important en Italie et qui justifiait peut-être le...
Alors, il faudrait poser la question à Riccardo. Je pense que c'est de l'extérieur, ça a l'air d'être un événement très important. Je crois qu'il y a une grande couverture internationale, qu'il y a plusieurs événements culturels. C'est peut-être aussi pour la communauté italienne l'histoire de redécouvrir son histoire, l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, la cohabitation avec la communauté juive et les échanges qu'il y a eu entre les juifs et le reste de la nation italienne.
Riccardo, est-ce le cas? Est-ce que cet anniversaire, 500e anniversaire, est un événement important pour l'Italie, pour les Italiens, pour Venise?
Je n'ai pas encore compris bien ce qui se passe.
Oui, on parle...
Non, j'ai compris bien la demande.
D'accord.
J'ai pas compris bien ce qui se passe à Venise en ce moment. Parce que moi, j'ai fait les livres, ils sont déjà passés 30 ans.
D'accord.
Et alors, je suis un peu surpris qu'après 30 ans, pour un anniversaire, il y a beaucoup de manifestations qui deviennent quelquefois des célébrations. Et ça ne me plaît pas beaucoup parce que célébrer les ghettos, c'est une question qui n'est pas une chose qui est destinée aux juifs, mais c'est plutôt le monde chrétien qui doit réfléchir sur la création des ghettos, sur la création des espaces fermés, pas seulement à Venise naturellement, mais encore plus à Rome. Venise, c'est un mythe, c'est un symbole, et alors naturellement, toutes les choses qui passent à Venise sont d'importance, pas seulement italienne, mais plutôt européenne et mondiale, je vais vous dire, samedi, il y a eu dans le New York Times
oui,
une page et demie.
Un article
dédié.
Très intéressant, effectivement.
Ouais. Et ça démontre toute l'attention de la presse. Et après, le New York Times, hier soir, m'a appelé le Washington Post.
D'accord. Donc, vous avez peur que ces célébrations ne fassent pas droit à la complexité de cette histoire.
Exactement.
On peut peut-être rentrer un petit peu, d'ailleurs, dans cette histoire. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire dans quelles circonstances a été créé le ghetto, d'où vient le nom ghetto et à quelle nécessité
oui,
il répondait.
Alors, quand l'Espagne, la France et l'Autriche et même les papes ont cherché aux premières années de 1500 de bloquer Venise et créer la défaite de la Repubblica Serenissima, ils ont gagné à Dagnadello une bataille très importante, mais Venise a réussi à survivre. Et quelques années après, les religieuses ont dit il faut gagner la grâce de Dieu. Gagner la grâce de Dieu, ça veut dire il faut mettre les juifs dans les ghettos, un quartier fermé où il y avait une ancienne fonderie qui est devenue un peu aux marges du centre-ville, qui est devenue le quartier des juifs. C'est le premier quartier, ils sont arrivés les prêteurs d'argent, la nation tedesca d'origine allemande, qui parlait yiddish, qui était arrivé en Italie après la peste noire de 1350. Et après, ils sont arrivés les Levantins, 1541, qui étaient des juifs espagnols expulsés par l'Espagne, qui sont allés dans les Levante et sont retournés à Venise. Et ils ont demandé d'être mis à côté et d'être protégés. Et ils sont allés dans le ghetto vecchio. Le premier ghetto, c'est le ghetto nuovo. Le deuxième ghetto, c'est le ghetto vecchio. Et à la fin des 1500, et première année des 1600, ils sont arrivés les juifs ponentins, qui étaient des juifs maranes, convertis au christianisme en Espagne et retournés au judaïsme quand ils sont arrivés à Venise.
D'accord.
Trois nations différentes.
Trois nations.
Des langues, mentalités et spécialisation économique.
D'accord. Alors, si on vous comprend bien, le ghetto était à la fois un lieu discriminant, mais en même temps protecteur pour les juifs, en fait. Il y a un peu cette ambivalence, finalement.
Ah oui, il est devenu après.
Au cours de l'histoire, d'ailleurs.
Des juifs parce qu'ils ont gagné un régime juridique particulier qui est devenu très important pour les juifs qui ont eu la possibilité de pratiquer la religion, les rites, et ils avaient une protection un peu spéciale.
Vous le montrez d'ailleurs bien dans le film, hein, Ilan Girard, que les relations de la communauté avec le pouvoir de l'époque, hein, la Sérénissime, qui n'étaient pas forcément évidentes, hein, qu'il y avait des contrats à respecter, mais bon, qui étaient malgré tout loyales. Hein, c'est un aspect que vous avez traité dans le film, qui est difficile à rendre compte par l'image, hein, quand même. Donc, d'où ces choix esthétiques dont vous pouvez peut-être parler aussi de...
Oui, c'est une pour quelqu'un qui n'est pas familier
voilà,
avec l'histoire des communautés juives, c'est une histoire complexe et c'est l'une des raisons pour lesquelles on a choisi de passer par le film d'animation. Ça a d'ailleurs été réalisé par une société alsacienne et j'ai des coproducteurs alsaciens sur ce film et le soutien de la ville de Strasbourg, de la région Alsace. C'est une manière de raconter l'histoire qui la rend beaucoup plus accessible, beaucoup plus ludique. Et nous avions envie que le film puisse être vu en fait par un très grand nombre de publics, y compris des jeunes publics, qui puissent apprécier en fait justement la diversité de ces communautés qui cohabitaient dans le ghetto.
Alors, vous mettez en scène, dans le film, il y a sur la place principale, rappelez-moi le nom peut-être, Ricardo, la place du ghetto, il y a une représentation dans le film de Shylock, enfin du marchand
oui.
de Venise.
Oui.
et on entend de nouveau ce fameux monologue poignant oui. de Shylock. Ricardo Calimani, Shylock est sans doute le juif vénitien le plus célèbre. Qu'est-ce qu'il représente en fait ? Est-ce que vous pouvez nous parler de lui comme s'il avait vraiment existé ? Quelle est sa
Non, c'est seulement un symbole.
C'est un symbole.
Shakespeare était un comédien exceptionnel, naturellement, et alors les symboles a eu une force métaphysique, mais elle n'est pas réelle. Je vais vous dire. Moi, j'ai fait un livre, Les Marchands de Venise, dans lequel je parle de la fondation du ghetto de Venise, et j'ai dit, c'est mon marchand de Venise qui est réel, pas le marchand de Venise de Shylock. Par contre, Shakespeare n'a pas protesté, alors peut-être que moi j'ai raison.
Mais en même temps, il est donc banquier hein, dans la pièce de Shakespeare, et c'était une profession... l'une des principales professions hein, des habitants du ghetto.
L'Église ne voulait pas faire des prêtres et exercer la fonction de banquier. Et alors les Juifs ont été acceptés, pas seulement à Venise, mais dans toute l'Europe, s'ils faisaient les prêtres de l'argent. Et c'est une constriction qui est devenue quelquefois une force inusuelle, exceptionnel, mais par contre très dangereux parce que Venise était à montrer vers les Juifs un continu lealtà, lealité et la maintenir les contrats les rapports de manière très claire. Mais dans les autres villes d'Europe, ils ont fait des accords qui ont été complètement bouleversés les jours après.
D'accord. Donc il y avait loyauté à Venise qu'on n'a pas forcément retrouvée...
Dans tous les autres pays d'Europe.
En même temps, vous montrez dans votre livre qu'il y avait une pression fiscale hein, de l'impôt très forte hein, qui s'exerçait sur les Juifs et que de cette façon, les Juifs, par leurs impôts, ont largement financé, par exemple, la construction du canal.
Absolument. Mais à la fin, le ghetto était très pauvre parce que l'impôt était aussi fort que la communauté et tout le ghetto étaient devenus très très pauvres à la fin des 1700 quand les portes ont été ouvertes par Napoléon Bonaparte. Parce que les impôts étaient chaque jour plus
lourds.
Mmh. Ouais.
D'accord. En quoi on peut se poser la question, en quoi les Juifs finalement ont contribué à la renommée de Venise, je dirais dans le passé, hein, à son rôle de trait d'union entre l'Orient et l'Occident, mais je dirais même jusqu'à aujourd'hui, hein, renommée qui continue aujourd'hui. Peut-être on peut penser un peu sur le dos hein, des Juifs, en quelque sorte, au sens où leur rôle n'est pas forcément reconnu. Je pose la question à tous les deux, si vous voulez répondre en premier.
C'est très
Ricardo.
Simple. La République de Venise, c'est un mythe. Et les Juifs ont donné une contribution énorme au mythe, soit avec les prêtres de l'argent, soit avec les marchands qui faisaient tout la Méditerranée, parce qu'il y avait des familles qui étaient en Turquie, une partie de la famille était en Espagne, une partie de la famille était à Venise. Alors il y avait un réseau. Des liaisons de commerce et familial énormes et très fortes. Naturellement, le ghetto de Venise est beaucoup important parce que c'est Venise. Venise, c'est un pont entre Orient et Occident et les Juifs étaient des médiateurs distincts, des médiateurs exceptionnels pour favoriser cette rôle. Et surtout, il y a des autres aspects intéressants que on peut dire de manière très rapidement. Ça veut dire qu'il y avait la possibilité à Venise d'imprimer des livres qui, avant d'être imprimés à Venise, étaient faits par des copistes. Ça veut dire que toute la culture...
Ah d'accord, c'était copié à la main, quoi.
Oui,
jusque-là,
exactement.
D'accord.
Mais ça devient une diffusion beaucoup forte dans toute l'Europe des livres imprimés à Venise. Et ça a concentré beaucoup des savantes et des intellectuels juifs, on peut dire, à Venise pendant les périodes du ghetto. Et l'autre question très importante, même le pape aimait beaucoup les médecins juifs. Pourquoi? C'est très simple à expliquer. Ça veut dire que les médecins juifs s'occupaient des corps et de la santé des corps. et pas de l'âme. Il n'y avait pas de théologie dans la cure des maladies pour les juifs. Mm-hmm. Et les médecins
c'était
chrétiens
des bons médecins,
étaient plutôt des théologues. Mm. Et l'autre question, c'est que les médecins juifs avaient beaucoup de contacts internationaux. Et ça veut dire qu'ils étaient à l'avant-garde pour connaître toutes les nouveautés pour s'occuper de ces patientes.
D'accord.
Et ça, c'est une autre des caractéristiques, pas seulement de Ghetto de Venise, même à Rome, il y avait une condition comme ça, mais à Venise, les médecins ont eu un rôle très important.
D'accord. Le film Ilan Girard le montre bien, hein, comment la communauté juive a contribué au rayonnement de Venise. Et notamment justement avec la place de l'imprimerie de Daniel Bomberg, hein, dont vous parlez, qui a imprimé à Venise le premier Talmud, ce qui a contribué aussi à l'unification du judaïsme, hein, parce que c'est un aspect du film et de votre livre aussi, Ricardo Calimani, hein, qui est intéressant. C'est un creuset, hein, le ghetto, c'est comme un chaudron, hein, en fusion. On y parle plusieurs langues.
Ce que je trouve, moi, très intéressant dans cette histoire des Juifs de Venise, c'est qu'à partir d'une contrainte, le fait d'être enfermé dans un lieu, en fait, la communauté juive a su créer un dialogue interne assez riche et a su établir une espèce de pacte avec la ville de Venise où effectivement, mettant à disposition ses réseaux, elle peut aussi développer sa spécificité culturelle et son rayonnement culturel. Donc finalement, ici le ghetto a presque un sens positif, c'est-à-dire que c'était devenu un lieu de construction de l'identité, une identité qui finalement est partagée puisque ces gens viennent d'horizons très différents. J'espère que Ricardo sera d'accord avec moi.
Moi, je vais vous dire que ma famille est entrée dans le ghetto en 1516 et mes parents, ma mère et mon père, étaient nés dans le ghetto de Venise. Moi, je suis le premier qui est né à 100 mètres du ghetto de Venise. Et alors, je suis très lié à cet endroit, mais quand on parle de ghetto, il faut faire beaucoup d'attention, être très délicat, parce que c'est vrai qu'il y a eu des positions très positives dans le ghetto de Venise, mm-hmm. mais c'est aussi vrai qu'il y a eu une lutte pour la liberté très, très, très difficile. Et alors, quel est le message de cette lutte de beaucoup de siècles pour arriver à l'intégration, à être égaux avec les autres. Et je crois qu'il faut se battre pour la liberté de tous les peuples, parce que les gouvernements sont peut-être un gouvernement terrible, mais les peuples sont toujours, on peut dire, des victimes des gouvernements. Alors il faut chercher toujours la liberté pour chaque peuple et chercher de se battre pour la justice.
Alors c'est peut-être le moment de rappeler aux auditeurs que la République de Venise a pris fin en 1797 avec l'invasion armée française, que les portes du ghetto à ce moment-là sont abattues, que les Juifs ensuite sont pleinement intégrés à la communauté nationale et s'installent d'ailleurs, comme c'est le cas pour votre famille, à l'extérieur du ghetto, achètent des hôtels particuliers pour ceux qui en ont les moyens, puisqu'ils ont enfin le droit d'être propriétaires. Voilà, et donc ça va être une période faste, en tout cas d'intégration, jusqu'à malheureusement que les murs symboliques du ghetto soient de nouveau construits en 1938 avec les premières mesures du régime fasciste contre les Juifs. Et on a l'impression, là je pose la question à tous les deux, on a l'impression que finalement le ghetto s'en est jamais remis de la Shoah, de la Seconde Guerre mondiale et de la déportation.
Oui, non, moi je suis un point de vue extérieur. C'est vrai qu'on connaît mal en fait la condition des Juifs pendant la guerre en dehors d'Italie. Et moi j'ai appris beaucoup de choses. J'étais choqué par ce que j'ai appris en parlant d'ailleurs avec mes amis juifs italiens. Et je trouve que c'est effectivement une des séquences peut-être les plus émouvantes de notre film quand Luzzatto explique en fait le destin de sa famille, de son grand-père, arrière-grand-père, qui est officier dans la Première Guerre mondiale et qui est déporté à Auschwitz et qui meurt à Auschwitz. Mais je pense que peut-être, Ricardo, vous êtes bien mieux placé que moi pour parler de cet épisode.
Moi, j'ai fait 3 volumes pour 2000 pages très récentes pour l'histoire de Fifth Italy. Et pour parler de ça, il faudrait avoir une heure.
Bien sûr.
C'est très difficile de faire une synthèse très simple. Je vais vous dire, les Juifs en Italie sont devenus une petite communauté. Nous sommes presque 22 000. C'est une chose très petite. Dans les 38, ils étaient 40 000 sur 40 millions d'Italiennes, ça veut dire une sur 1000. Mm-hmm. Aujourd'hui, nous sommes en minorité totale.
Et à Venise,
Les idées ne sont pas liées au nombre de personnes qui pratiquent cette idée. Alors, les idées sont très importantes. Mais il faut être réaliste et dire que les événements qui sont passés dans le triste passé ont créé des situations qui aujourd'hui ne sont pas récupérables.
Alors, en même temps, le film d'Emanuela Giordano laisse penser que la communauté juive est toujours vivante. Il y a ses enfants qui servent de guide à notre guide à nous, qui est donc Lorenzo Luzzatto, qui nous promène à travers la ville. Ses enfants, ils se finissent sur... le film s'achève sur une scène de joie, une bar mitzvah. Qu'est-ce que, Ricardo Calimani, pour vous, la communauté juive est-elle toujours vivante? Comment voit-elle l'avenir? Est-ce que cette histoire est terminée, finalement, les 500 ans
Terminée, pas du tout.
Non, d'accord.
Terminée, pas du tout, mais les difficultés sont énormes, parce qu'il faut confirmer une identité. Mmh. Je vais vous proposer une métaphore. À Venise, il y a une condition instable quand nous sommes avec un pied dans le vaporetto et un pied dans l'imbarcadero. Et normalement, cette situation va terminer que quelqu'un va finir dans l'eau. Moi, je pense qu'il ne faudrait pas finir dans l'eau, mais il s'agit d'un équilibre très instable, et il faut être très forte, et il faut mettre toute la force, toute la culture, et surtout toute la générosité, parce qu'aujourd'hui, les problèmes de l'Europe sont énormes. Les problèmes au Moyen-Orient aussi énormes, et il ne faut pas se réinsérer dans le ghetto mental et se réinsérer dans le ghetto physique. Et vous comprenez, c'est une lutte dans laquelle il y a nécessité de toute la générosité, de tout le courage possible.
Parce que finalement, le ghetto a protégé aussi l'identité juive. C'est ce que vous disiez un peu, Ilan Girard, et que les murs étant tombés...
Oui. Mais aujourd'hui, ils sont passés 2 siècles, les conditions sont instables, beaucoup de choses sont changées, et je crois que même une heure de conversation ne serait pas suffisante pour comprendre toutes les problématiques qui aujourd'hui sont en face aux Juifs.
Ce qui est, je crois, très intéressant.
Et pas seulement aux Juifs, naturellement.
Ce que je trouve très intéressant, c'est que en fait les Juifs de Venise ont participé de manière très active à la création de l'État italien, et ils ont finalement quelque part embrassé une idée très universaliste à travers les idéaux de la Révolution française pour, comme le dit Ricardo, regarder aussi par-delà les murs du ghetto. Et je pense que c'est peut-être un des enseignements finalement de cette histoire, c'est que peut-être notre responsabilité en tant que juif, c'est aussi de considérer autrui comme soi-même, et d'avoir cette générosité et cette capacité d'accueil.
Il faut avoir un esprit critique, le plus critique possible, pour chercher de comprendre, parce qu'être juif, c'est battre contre les idoles, pas seulement les idoles qui sont faites des matières physiques, mais même les idoles dans notre tête.
D'accord. Et donc, il faut y compris se battre peut-être contre la folklorisation, hein, entre guillemets, oui, du ghetto, la monumentalisation, pardon pour ces néologismes. Hein,
exactement.
Et la tentation de transformer le ghetto en un musée, voilà, un quartier musée.
Oui. Ça, c'est le vrai problème. Et c'est pour
c'est
ça que ces cinq siècles sont un danger pour quelque part, hein, parce qu'il faut reprendre une manière très judaïque, très être critique même contre les célébrations. Il faut faire les commémorations naturellement, mais il faut les faire avec un esprit très vivant et très critique pour éviter de croire. Je vais vous dire un mot. Pour gagner la liberté de la tête, il faut se battre chaque jour.
Merci Ricardo Calimani. Vous êtes un bon représentant, je pense, de cet esprit critique. Merci également Ilan Girard. Donc, je rappelle que le film Le Ghetto de Venise, hein, sera projeté le 25 mars prochain sur toute l'histoire. Et puis, bon, les auditeurs qui auraient envie d'aller à Venise cet été, il y a une grande exposition qui va se tenir, donc, qui s'appelle Venise, les Juifs et l'Europe 1516 à 2016, à partir du 19 juin jusqu'au 13 novembre. La pièce de Shakespeare, Le Marchand de Venise, sera également joué en juillet, pendant la dernière semaine de juillet, dans le Palais des Doges à Venise. C'était Mémoire Vive. Deux adresses pour nous retrouver: radio-rcj.info, mémoirevive au pluriel.net. À dimanche prochain.